Atlantique. Son corps avait été retrouvé un peu plus tard. L'homme dément toute implication dans cette affaire. Et puis, surprise au tournoi de tennis de Monte-Carlo, l'Autrichien Jürgen Melzer s'est qualifié pour les demi-finales en battant Roger Federer, le numéro 3 mondial, en 2-7. Melzer rencontrera l'Espagnol David Ferrer en demi-finale.
Nous autres.
Le 13 février dernier, les femmes italiennes étaient dans la rue.
Zoé Varier.
De Turin à Palerme, elles étaient des centaines de milliers à crier leur colère.
On en a marre d'être traitées justement de putanocratie, l'Italie est un bordel, non.
Un hurlement pour dire basta. Nous voulons un pays qui respecte les femmes.
Nous autres, ce soir, à partir de 20h.
France Inter.
La différence.
15h04 sur France Inter, je vous laisse en compagnie de Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Bonjour Daniel, bonjour les AMG, c'est Pierre d'Ardèche. Je voulais rendre un hommage à Vincent. Postier comme moi, il nous a laissé il y a 2 ans, victime d'une sclérose latérale amyotrophique. C'est lui qui m'a fait découvrir Sud. C'est lui qui s'indignait contre toutes les injustices chez nous, mais aussi en Palestine, au Chiapas et partout dans le monde. Que tous ceux qui l'ont côtoyé pensent à la réaction qui aurait été la sienne devant le projet Facteur d'avenir et les suppressions d'emplois qui en découlent. Bravo la société anonyme La Poste. Merci Daniel.
Salut à tous. Avec quelques années de retard, j'ai lu le bouquin de Serge Halimi, Les nouveaux chiens de garde. C'est un portrait de la médiacratie plutôt corrosive qui m'amène à écouter la radio, la télé, mais surtout les chroniqueurs qui la font avec une toute autre oreille. En fait, j'en ai marre d'entendre les néo-libéraux, socialos, strauss-kahniens faire leur promo tout au long de la sainte journée sur le service public et sur Inter en particulier. Merde, je paye pas ma redevance pour promouvoir le libéralisme sous toutes ses formes. Et aujourd'hui, chez Stéphane Bern, aux Anquilles, Claude Allègre qui nous compte que Fukushima est une cocotte minute. J'ai peur, Daniel, j'ai peur. Nous nous berlusconisons. Ciao.
Bonjour Daniel, c'est Noura. Voilà, j'appelle parce que je regarde quelques journaux sur des manifestations anti-Kadhafi et je suis tout étonnée de voir que la plupart des pancartes qui sont brandies sont en anglais et en français. Kadhafi, go to hell, démocratie pour tous, etc., liberté pour tous les peuples africains. Comme si c'était à l'usage de nos démocraties. Donc je m'étonne qu'il y ait aussi peu de pancartes comme en Égypte et en Tunisie, aussi peu de pancartes qui soient en arabe. Que peut-on en conclure? Que peut-on en penser? Je laisse ça à notre réflexion générale, collective plutôt. Au revoir Daniel.
Voici ce qu'on peut lire jeudi après-midi sur le site lsa.fr. Peu de révélations lors de l'Assemblée générale de Casino qui s'est tenue ce matin à Paris, salva Gramme. Jean-Charles Naouri, PDG et actionnaire majoritaire du groupe, a réaffirmé sa confiance dans son modèle et les objectifs énoncés en début d'année, à savoir poursuivre la croissance très rapide de l'international, continuer de gagner des parts de marché en France et améliorer la rentabilité de Franprix et Leader Price. Cette dernière renoue avec une forte croissance, preuve selon Jean-Charles Naouri que son redressement, à coup de baisse de prix, de promotion plus active et d'introduction d'une offre de marque nationale ciblée, est en bonne voie et devrait se poursuivre. Seule fausse note dans cet exercice bien rodé, l'intervention bruyante d'une vingtaine de militants venus dénoncer pêle-mêle le statut qualifié de précaire de certains gérants mandataires dans la branche proximité du groupe, dont ils réclament la requalification en salariés. Mais aussi la plus-value engrangée par PDG de Casino lors du retrait de son holding, Eurys de Moulinex, en 1994, alors que le groupe engageait des licenciements massifs. Ou encore, cerise sur le gâteau, le rôle supposé qu'il aurait joué dans le Big Bang de la finance entre 1984 et 1986, lorsqu'il était directeur de cabinet de Pierre Desrebeauvroy, ministre des Finances. Conséquence de cette agitation qui s'est conclue sous les airs de l'international, la séance consacrée aux questions de la salle a été écourtée et le petit groupe poliment raccompagné vers la sortie par un service d'ordre impressionnant de près de 70 agents de sécurité. Pas de quoi émouvoir les actionnaires présents, ils ont en effet dans la foulée approuvé toutes les résolutions qui leur ont été soumises et applaudi le bilan du PDG du groupe qui leur a versé au total 424 millions d'euros de dividendes au titre de l'année 2010.
Mais il n'a rien compris, notre reporter en chef, Daniel, aujourd'hui. Avec des gens cyniques, fallait pas attaquer dans les questions de ce type. Il fallait poser des questions du genre « Monsieur, dans le cadre du développement et de l'augmentation de la marge opérationnelle et du profit qui pourrait augmenter au niveau de l'entreprise, croyez-vous dans quelle mesure il serait possible de réduire l'ampleur de la masse salariale dans les magasins Casino ?» Voilà les petites questions qu'il fallait poser. Devant le cynisme, il faut être encore plus cynique. Oh, 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 hu, hu. Ah, au fait, vive le procès des SK.
Ouais, salut Daniel. Bah écoute, c'est François. Je vais tirer un petit bilan de la journée d'hier avec les gérants de petits casinos, les Moulinex, les amis de là-bas si j'y suis et Fakir. Bah, si tu veux, en face de nous, on a eu affaire à une grosse production hollywoodienne, puisqu'il y avait bien une centaine d'acteurs avec plein de vigiles. Il y avait un vigile tous les 2,50 m environ dans la salle et dehors. On est passé vraiment au milieu d'une haie d'honneur de vigiles avec plein d'oreillettes. Et puis, il y avait même des acteurs connus. On reconnaissait des Bertrand Blier, Castaldi et tout ça, les acteurs français de la grande époque, les crânes rasés qui nous surveillaient. Et en plus, il n'y avait pas un recoin de la salle qui n'était pas filmé par une caméra. Il y avait des caméras partout pour filmer tout ce qui se passait dans la salle. Donc bref, hier, on a je pense, contribué à lutter contre le chômage en donnant du boulot à plein de personnes. Nous, de notre côté, on n'était pas à la super production hollywoodienne, on était resté à la petite vidéo familiale en Super 8, puisqu'on était donc une vingtaine de petits actionnaires, et puis il y a eu des accompagnateurs qui ont pu rentrer. Pour ce qui est de nos trois questions, puisqu'on avait trois questions à poser, les gérants petits casinos ont demandé la requalification pour les gérants qui le souhaitaient en contrat de travail salarié, leur contrat de travail en contrat de travail salarié, afin d'avoir 35 heures, des heures supplémentaires payées comme des heures supplémentaires, ainsi de suite. La réponse de Jean-Charles Naouri sur ce point a été non, malgré les bénéfices, puisque le groupe, il paraît, est dans une forme formidable, mais ce n'était pas possible. Dans la deuxième question, c'était Maguine Moulinex qui l'a posée, pour savoir si jamais M. Naouri pouvait rendre les 25 millions d'euros de bénéfices qu'il a fait de son propre aveu par son passage chez Moulinex, alors qu'il n'a rien apporté à l'entreprise, sinon un directeur qui a conduit l'entreprise à la faillite. Bah, il a refusé de répondre à cette question en disant que c'était pas le moment d'en débattre, qu'il fallait pas en débattre dans l'Assemblée Générale de Casino. Le problème, c'est qu'on aimerait bien savoir quand est-ce qu'on peut en débattre de son passage chez Moulinex, puisqu'il n'y a pas de lieu pour ça, il n'y a pas de lieu pour le rencontrer. Et le dernier point, sur la libéralisation de la finance, sur le grand Big Bang financier qu'il a mis en place quand il était directeur de cabinet de Pierre Bérégovoy entre 84 et 86, on demandait simplement à pouvoir avoir un moment de débat avec lui sur ce point, un moment de rencontre où on puisse, avec des économistes, avec des députés éventuellement, discuter de la mesure qu'il avait mise en place dans les années 80. Il a tout simplement coupé le micro et d'un claquement de doigts, il a invité ses vigiles à nous virer. Donc on peut considérer que c'était un non. Quand on se fait virer par les vigiles, ça veut dire qu'il ne compte pas lancer le débat. Il a préféré les gros bras plutôt que le débat. Donc qu'est-ce que c'est la conclusion de tout ça? Bah, je dirais que on a intérêt de se mettre au rugby avec les petits casinos et les Moulinex pour former un pack solide pour pouvoir faire face aux vigiles l'année prochaine. Parce que si jamais on ne suit pas un entraînement intensif, on risque d'être sorti de la même manière. Voilà, bon, bah, allez, c'est Daniel. Bonne fin de voyage. Ciao.
Voilà en gros ce qui s'est passé. Mais évidemment, vous voulez les détails et vous les aurez bientôt dans la base. Si j'y suis, tous les détails sur ce qui s'est passé dans l'Assemblée Générale, le retour, c'était hier. Mais pour comprendre ce qui s'est passé hier, il faut revenir en arrière. Il faut revenir à ce qui s'est passé il y a un an pour bien tout comprendre et pour bien tout savourer. Bientôt, nous allons revenir sur donc le chapitre précédent. C'est un combat de titans qui s'annonce entre les clampins de la Bastille, de Fakir, de Casino et de Moulinex réunis, pour ce qu'il en reste, face aux grands géants de la distribution. Et donc, vous allez avoir une idée avec ce retour sur la première partie de cette comédie dramatique. Merci en tout cas pour tous vos messages qui me parviennent ici à Hiroshima, où nous continuons nos reportages absolument passionnants, Hiroshima, passionnant, bien plus passionnant que tout ce que je pouvais imaginer. Et l'une des questions que nous posons, bien sûr, à ceux que nous rencontrons, beaucoup de survivants d'Hiroshima, ceux qu'on appelle les Ibakusha, On leur demande, bien sûr, quel lien faites-vous entre Hiroshima et Fukushima? Quel lien? Eh bien, c'est, la réponse est immédiate, le physique. La peur physique, la peur de la radiation, la peur d'être irradié. Et c'est cette peur qui a été réveillée chez eux par la catastrophe de Fukushima, et c'est ça le lien qui existe entre ces deux points du Japon, Hiroshima et Fukushima. Et nous avons visité le musée d'Hiroshima, bien évidemment. C'est poignant, c'est terrible, on a vu la fameuse petite montre qui a été bloquée à 8h15, 8h15, le 6 août 1945. 70 000 morts à l'instant même, et en l'espace de 2 mois, 140 000 morts, 200 000 en tout, avec la bombe sur Nagasaki, 3 jours plus tard. Mais ce musée donne raison à George Orwell. 1984, vous vous souvenez, la guerre, c'est la paix. Comment la propagande permet d'inverser les choses? Comment la propagande permet de dire que la guerre, c'est la paix? Eh bien, le musée d'Hiroshima en donne une parfaite illustration. Car au terme de cette déambulation dans le musée, on nous dit, eh bien voilà, c'est grâce à cette bombe, c'est pas tout à fait grâce à cette bombe, mais c'est presque ça. C'est à cause de cette bombe atomique, la première bombe atomique de l'histoire, bien évidemment, qui a été lancée sur une population civile, des hommes, des femmes et des enfants, alors même que le Japon avait déjà perdu, le Japon était exsangue, le Japon était à plat. En mars 1945, les États-Unis avaient bombardé 65 villes japonaises avec des bombes incendiaires. En mars 1945, en une seule nuit, 80 000 habitants de Tokyo furent tués. Eh bien, ce que dit ce musée à la fin, c'est grâce à tout ça, c'est à cause de tout ça que le Japon a découvert la paix, que le Japon est revenu à la paix. Donc, grâce à la guerre, on a eu la paix. La guerre, c'est la paix. C'est une inversion monstrueuse de l'histoire et du travail fait par les historiens, par les témoins depuis 65-66 ans. Voilà où nous en sommes. Vous assistez donc à l'Assemblée Générale de Casino avec tous vos héros favoris. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour, je voulais réagir à l'auditrice qui était scandalisée au nom de la laïcité par le report ou les sessions spéciales pour les étudiants juifs pratiquants en raison de la Pâque juive. Mais je voulais demander à cette auditrice, est-ce qu'elle a déjà vu un concours se passer lors des Pâques chrétiennes? Donc, est-ce que la laïcité a deux poids, deux mesures? Est-ce que ce qui est vrai pour les juifs n'est pas forcément pour les chrétiens, ou inversement? Merci, bonne journée, au revoir.
Hulot le friquet, qui a utilisé plus d'hélicoptères que quiconque, qui ne résiste pas à faire un tour en rafale, et qui donne des leçons de morale écologique, mais qu'est-ce qui reproche aux autres, Hulot? De céder à leurs envies? Hulot, aussi crédible qu'un curé qui reprocherait à ses ouailles d'avoir mangé trop de tartes, alors que lui se serait envoyé 3 gâteaux au chocolat, une demi-bouteille de whisky, et aurait profité d'une péripatéticienne pour la nuit. T'es crédible, mon Hulot! Allez, à bois! Ouah! Ouah!
Là-bas, si j'y suis... 29 avril 2010.
On va à l'Assemblée Générale des actionnaires de Casino, parce que toi, t'es actionnaire de Casino, moi aussi.
Je suis actionnaire.
Christophe Léger.
Et j'espère pouvoir me faire entendre, ouais.
Ancien gérant de Petit Casino.
J'espère surtout qu'on va toucher des dividendes.
Il y a combien de personnes à peu près là d'actionnaires dans la salle?
Pour l'instant, 350.
350?
Ouais.
Quelques mots.
Jean-Charles Naouri.
Les résultats financiers, on dirait que le rock sur 10 ans.
PDG du groupe Casino.
Fortement en passant de 653 millions d'euros en 2000 à 1209 millions d'euros en 2009. C'est une bonne augure pour l'avenir. Très bien, merci. Maintenant, nous pouvons répondre à vos questions.
Bonjour, monsieur Naouri. Je note dans le rapport qui vient d'être rendu, un assez long rapport, qu'il y a une absence des salariés. Il est marqué sur le tableau derrière vous qu'il y a 200 000 collaborateurs à travers le monde, et pourtant, les salariés sont absents du rapport. Et finalement, quand on connaît l'histoire de votre parcours, c'est quelque chose qui ne me surprend pas. Sur ce qui s'est passé chez Moulinex, par exemple. Bon, chez le Moulinex, vous y êtes passé, vous avez fait une plus-value confortable. Derrière, il y a eu 3500 licenciements. Il y a eu des suicides, des dépressions, des divorces, ainsi de suite. Mais vous en êtes sorti. Pour ce qui est du groupe Casino, j'ai eu à rencontrer un certain nombre de gérants des petits casinos qui se trouvent exploités. Ils espèrent en tirer un revenu confortable. Ils travaillent pas 35 heures par semaine, mais plutôt 70. Et ils terminent à la fin du mois avec 1000 euros. C'est sur ça, quand même, qui est assis votre 1 300 000 euros de salaire annuel. C'est sur ça que sont assis les dividendes, les 4,5% d'augmentation du dividende qui vont pouvoir être versés.
Je vous remercie pour cet aspect-là. Et donc, passons maintenant.
Non, mais il y avait une question quand même. Pourquoi ne demandez-vous pas à l'Assemblée Générale de ne pas augmenter les dividendes cette année et de reverser tout ça à des gérants?
Ça sera posé quelque part par le vote tout à l'heure sur les dividendes et vous verrez la réponse.
Bah, je m'excuse.
Vous voulez qu'on reprenne ce débat en privé parce que visiblement, ça n'est pas aujourd'hui l'objet de la réunion. Je propose qu'on revienne à l'Assemblée Générale si le vote est
sans. Oui, moi, je voudrais poser une question.
Monsieur voudrait poser une question.
Le bilan financier du groupe est très flatteur, c'est très bien. À mon sens, c'est pas le cas au niveau du bilan social. Je note, je suis moi-même gérant d'un petit casino. Enfin, je l'étais. Un couple de gérants de supérettes qui bossent chacun 70 heures par semaine, ils gagnent pas en 2 mois ce que le président gagne en une journée. Ça, c'est déjà un premier chiffre. Ensuite, mon histoire, elle est simple. J'ai cru aux promesses des recruteurs du groupe sur le commerce de proximité, son intérêt pour le lien social et la vie de la collectivité. J'y ai cru. J'ai abandonné avec mon épouse, nous avons abandonné tous les deux, des situations enviables. Quelques années plus tard, on n'est plus des gens dans des situations enviables, on est des cas sociaux. J'ai failli mourir d'épuisement au travail. Je suis resté 3 mois dans le coma.
Bah oui, ça vous arrive pas.
Je suis resté 3 mois dans le coma. Et ça fait maintenant plus de 2 ans que je me bats devant les tribunaux pour que l'entreprise organise mon retour à l'emploi. Les tribunaux se sont prononcés en ma faveur. Casino n'exécute pas les décisions des tribunaux. C'est une honte, la politique sociale de ce groupe.
Sur le même sujet. Non. Très bien. Donc c'est plus en fait un constat qu'une question que vous posez. Nous sommes en désaccord complet avec la position que vous exprimez. Je réfute complètement ce que vous dites, ça me paraît totalement inacceptable pour le groupe, parce que quelque part à travers moi, c'est l'ensemble des collaborateurs du groupe, notamment ceux qui sont présents ici, dont vous critiquez l'action de manière grave. Je vous remercie pour cet aspect-là, et donc passons maintenant.
Je voudrais vous poser une question sur la nature de marque propre de Leader Price, si vous répondez.
Chaque question des actionnaires sur la forme des bouteilles d'huile d'olive, sur les marques Leader Price en Espagne, et sur les publicités qui arrivent trop tard dans les boîtes aux lettres, chaque question d'actionnaire a le droit à une longue réponse d'un dirigeant de casino. Alors que les questions des salariés ont été groupées et balayées d'un verre de.
Alors là, Maggie essaye de prendre la parole en vain.
Maggie Lalizel, présidente de l'association des anciens de Moulinex.
Ça suffit, vous aussi.
Merci beaucoup.
Monsieur Naouri, je me permets de vous interpeller. Je m'excuse. Messieurs, dames, j'ai quelque chose à dire. Monsieur Naouri, vous avez fait un bref passage chez Moulinex. Je suis une ancienne salariée de Moulinex. Je représente l'association des anciens Moulinex. Un peu de décence, messieurs, dames. Il y en a qui se sont suicidés. Il y en a qui vivent dans les minima sociaux.
Oui, c'est la vérité, 22 ans, bref, la fin.
Monsieur Naouri, vous avez engrangé 50 millions d'euros lors de votre passage chez Moulinex. Il y a 9 mises en examen dans l'affaire Moulinex. Des amis, pour la plupart, à vous. Il y a, dans ce monde, des patrons voyous. Et je vous demande de répondre.
Mais vous pouvez répondre quand même, hein.
Nous avons suivi une forme de passage.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si je suis avec François F. et Pascal P., l'assemblée houleuse des actionnaires, avec quelques intrus.
Scandaleux. Ça faisait dans les régimes communistes. Bah oui.
Oui.
C'est vous qui avez un total pouvoir sur ce que deviennent les salariés.
Mais quel est le rapport, mon vieux? Moi aussi, je souscris à des trucs humanitaires et autres.
Oh, ben, je vois que vous êtes solidaire. Je vois que vous êtes solidaire. Vous êtes complètement solidaire, monsieur. Mais oui, bien sûr. Tout ce qui vous intéresse, c'est votre action, s'il y a monte ou s'il y a descend. Voilà ce qui est important pour vous.
Alors, nous sommes très présents et très actifs.
La misère, vous vous en foutez.
Notamment ouais. Brésil, nous sommes aujourd'hui.
Mais qui n'est pas une révolution, puis que je vous vois, parce que je vous coupe la tête. Chut.
Et notre filiale GPA croit beaucoup e-commerce.
Pourquoi vous parlez de l'Union soviétique?
Oui, vous pouvez arrêter un peu, là.
Merci beaucoup, monsieur Marc. Faites voter une résolution.
Le vote de la première résolution est ouvert, s'il vous plaît.
Merci de voter.
Ouais, bah moi je vote, j'aurais dû m'abstenir là, mais je vote contre pour vraiment marquer le coup.
Contre. Hop. Bon, est-ce que t'es content?
Non.
Quand je vois ces teignes de peinture, non.
Une personne me reprochait que ça soit l'Union soviétique.
Hein?
Vous me reprochiez que c'était l'Union soviétique parce que je tentais de prendre la parole. Le résultat est soviétique.
Les résultats sont de 99,97% de oui. Et 0,03% de non. Je crois que même en Union soviétique, on n'a jamais réussi des votes pareils, quoi.
Oui, je trouve intéressant de participer à une assemblée générale où on a discuté essentiellement des capsules de café, on a discuté de la confusion entre les bouteilles d'huile, alors qu'on est en train d'allouer des millions d'euros à des gens, on donne des pouvoirs, des signatures, on ne sait même pas pourquoi on est là. Quand on voit le nombre de personnes, les scores font tous plus de 97%, on est à 99,9%, enfin, on se demande ce qui se passe, c'est juste un grand cirque en fait. C'est un grand cirque, sauf que les clowns ont changé de costume, voilà.
Le vote est ouvert.
Moi je suis sûr qu'un jour, tout comme on trouve ridicule aujourd'hui les scores africains et les scores en Union soviétique qu'il y avait dans les pays de l'Est, un jour viendra, et il n'est peut-être pas si éloigné que ça, où on jouera complètement ridicule, risible, les scores qui étaient obtenus, les modes de décision dans les grandes entreprises.
Les modes de gouvernance, quoi, marqués.
Où Nauri sera communément, et sans que ça soit l'idéologie, sera communément comparé à Brejnev, quoi.
Tu crois qu'ils sont tous partis au buffet, déjà?
Oh, on voit de plus en plus d'actionnaires se lever pour rejoindre le buffet.
Oh, ça y est.
La ruée vers l'or.
Tous les actionnaires se lèvent.
La séance est levée.
On va vers Nauri.
On va aller voir quand même. Jean-Charles Nauri, maintenant. Allez.
Petite musique chouette. Monsieur Nauri est à la tribune. Il se lève.
Bravo.
D'accord.
Monsieur Nauri.
C'est Laurent. Bravo.
Monsieur Nauri, pardon, excusez-moi. On grimpe à la tribune. Je vais dire bonjour à Monsieur Nauri.
Oui, tout secondes.
Oui,
ça vous est réservé.
Je vais dire. Mais non,
une réunion maintenant.
Oui, non, il y a une réunion maintenant. Mais vous mettez votre main sur le micro et vous êtes des gens présentables en costard cravate. Et voilà, Monsieur Nauri qui s'échappe par la porte de derrière.
Pardon, donnez-nous une date.
Il y a un conseil d'administration. Bah, bien sûr, il n'a pas 5 minutes. C'est incroyable. Il n'a pas 5 minutes. Arrête, lâchez-moi la manche, monsieur.
Lâchez-moi la bouche.
Arrêtez de tenir le micro.
Non, c'est pas pareil.
Donc là, on est à la tribune du groupe Casino.
Les actionnaires, vous intervenez là.
Bon, Monsieur Nauri est passé par la porte de derrière.
Monsieur Nauri,
on peut vous voir ?
Excusez-moi. Monsieur Nauri ? Excusez-moi, alors là, Monsieur Nauri part par les couloirs. Et on le suit avec Maggie. Monsieur Nauri ? Excusez-moi, monsieur, on aurait... On le suit dans les couloirs. Accès office. Monsieur Nauri, vous pourriez nous répondre ?
Oh là, on est que deux femmes, on va pas le bouffer, c'est Monsieur Nauri.
Monsieur Nauri qui a claqué violemment. Bon, Maggie, on repart, on a eu porte close, venez.
Quand je vois ça, je suis en colère pour toutes les personnes qui ont jalonné ma vie et qui sont restées sur le côté. Et ils s'en foutent. Mais il s'en fout royalement, il part, le sourire aux oreilles, et puis vas-y Nénette, on continue. Et demain, il va faire pareil avec Casino, et après-demain, ça sera un autre.
En tout cas, là, on a vraiment tenté de le suivre pour lui demander des réponses à nos questions. On est allé jusque dans les arrière-couloirs de sortie.
Je peux pas, hein.
Parce que là, j'ai l'impression qu'il a plutôt fui par une porte de derrière. Ouais.
Monsieur Nauri n'avait pas le temps de répondre à vos
questions. Non, pas du tout. avec Pascal, on lui a couru après, mais blocus. Hein. T'as tout son staff qui s'est mis entre lui et nous. Et... Bon, écoute, je sais ce que je vais faire.
Qu'est-ce que tu vas faire?
Moi, je vais prendre mes bouquets de fleurs, je vais l'emmener sur la tombe des copines qui sont pendues. Ça, ça va être la contribution minime de Naouri, non?
On comprend que les femmes soient attirées par un homme pareil. Je le disais hier, un QI 25 fois supérieur au nôtre, selon Alain Minc, je parle de Jean-Charles Naouri. 25 fois supérieur au QI d'Alain Minc, Jean-Charles Naouri. C'est pas son seul charme, c'est pas son seul charme. Il gagne 84 SMIC par mois. Il est la 63e fortune française avec 452 millions d'euros. Il a un pédigré formidable, Normal Sup, Harvard, ENA, inspecteur des finances, père de la réforme des marchés financiers lorsqu'il était aux côtés de Pierre Bérégovoy entre 84 et 86. Un homme absolument prestigieux qui était au centre de cette assemblée générale des actionnaires de casinos. Je m'amusais à faire une confusion entre actionnaires et réactionnaires, mais il faut être prudent parce que, au travers des fonds de pension, bien des gens bien ordinaires ont enchaîné sans le vouloir leur destin à celui de la finance. Et oui, il y a les actionnaires de caricature, vous allez en rencontrer, ils sont depuis très longtemps ces petits gros rentiers caricaturés et dépeints par Balzac et Daumier il y a bien longtemps. Aujourd'hui, toujours, ils sont là avec les mêmes profils, le même esprit, mais qui sait s'il n'est pas au fond actionnaire à travers sa retraite ou à travers ses économies. C'est pas si simple, si facile que ça. Il semblerait que nous soyons beaucoup plus nombreux à être mouillés dans ces affaires que nous le croyons. Mais là, c'est clair, il s'agit d'actions achetées par... ça peut être une, comme c'est le cas de ces intrus, ou beaucoup plus, et c'est un grand jour, bien évidemment, parce que les résultats sont excellents. Monsieur Jean-Charles Naouri s'en félicite, et chacun s'en félicite, avant de partir pour le buffet. Voilà, c'est ce qui se passe ce jour-là, ce 29 avril, sous le Palais Brongniart.
Charbon, on a appris à se défendre, à répondre dans notre charbon. Ni le ton est de guerre, le temps n'est pas à l'armistice. Il n'y aura pas de trêve, pas de paix, donc il n'y aura pas de justice. Tant que leur ascenseur social empêchera la pisse, on leur fera la misère, nos filles et nos fils. Rien ni personne ne pourra se mettre en travers. Écoute comment résonne ici la clameur populaire. Ils sont pas prêts de nous voir avaler notre langue. Sache qu'on frappera sans relâche, sans que des sautants. Mépris de classe, leurs choix, leurs décrets, leurs lois, les pros d'acasses, leurs experts, leurs commissions, guignols, solutions, restrictions budgétaires, leurs détournements de fonds, leur business, leur marché, leur bourse, leur croissance, à
actionnaires, des sanctionnaires, influence, puissance, leur licenciement, leur plan, leur minima, son solo, leur profit, leur confort de vie, le poids de mon mot, leur répression, garde chiourme, leur coup de bâton, leur politique sécuritaire, leur prison, leur maton, propagande, contrôle, matraquage médiatique, leur formatage, leur technique pour endormir la critique.
Minex aussi, monsieur.
Voilà, ben je suis, ça c'est tout à fait respectable, mais c'est pas le lieu.
Bah, monsieur, je suis désolé, mais comme vous, j'avais une action.
À bientôt. Je voulais juste vous dire ça, entre nous.
C'était pas par rapport à Casino, je demandais
oui,
à
c'est
monsieur
ça, le problème, c'est que c'est l'Assemblée.
Mais oui, mais on n'arrive pas à le choper autrement.
C'est
monsieur.
Pas grave. Bon.
Alors la fuite en avant, là, on
tous
a
les
voulu.
Les combats sont respectables.
Non, non, mais on a voulu lui parler correctement dans le couloir. Il s'est sauvé. Je suis désolé, monsieur.
C'est bien. Bonne chance.
Bah voilà, vous avez vous expliquer, vous étiez fier de travailler pour Casino.
Je suis fier de travailler dans ce groupe. Je suis fier de tout ce qu'on fait.
Moi, je suis fier
de ce qu'on fait en social. Je suis fier de tout ce que font les équipes sur le développement durable. C'est un plaisir et une fierté de travailler dans ce groupe.
Justement. C'est pour ça que j'ai interpellé monsieur Naouri quand même.
Vous parlez de sujets que je ne connais pas, madame. Mais moi, si. Je suis donc salarié de ce groupe.
Non, 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 mais moi, j'ai pas.
Respectez ce que
oui,
je dis.
Oui, moi aussi, je vous respecte. Voilà. Mais quand on parle de la charte des droits de l'homme, on répond oui. aux interrogations.
Et moi, je suis depuis 30 ans dans cette société.
On est fiers. On est fiers de participer à l'aventure de ce groupe. On est fiers de monsieur Naouri et de son action sociale. Voilà. Et ça, vous ne pouvez pas nous l'enlever. S'il vous plaît.
Voilà, une fierté qui fait un peu écho à ce que disait tout à l'heure dans les répondeurs, dans les messages des répondeurs, un employé de Casino qui nous expliquait comment effectivement il recevait des circulaires émanant de la direction de Casino faisant appel à l'esprit solidaire, au développement durable, etc. C'est une vieille tradition que ce cynisme qui consiste à manipuler nos inclinations à la vertu et à la solidarité.
Ça méritait des photos, là.
Ah oui, c'est vrai. Là, il y a tous les actionnaires qui se sont précipités sur le buffet. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un nouvel arrivage.
Exactement,
ah oui.
Exactement.
Le sucré vient d'arriver.
Oui, le sucré. Et surtout le macaron.
Qu'est-ce qui se passe? Les actionnaires sont quand même des verres de champagne à la figure.
Moi, j'en ai deux. Alors, pareil,
ouais, mais ça vous donne le droit de jeter le fond de votre verre sur cette table, si vous voulez.
Une dame qui est prise à partie à propos des cocktails.
Ah non, ouais.
Mais qu'est-ce que vous... Pourquoi cette dame est agressée par les actionnaires?
Comment?
Pourquoi les actionnaires vous agressent, madame?
Parce que j'ai fait la remarque sur les cocktails. C'est de pire en pire. Donc, il y a énormément.
Tous des gens comme vous.
C'est la première à dire.
Prenez-la en interview. C'est excellent pour vous.
Oui, oui, ce sera excellent.
C'est excellent pour vous. Répétez ce que vous avez dit tout à l'heure.
Bah oui, je peux le dire.
La femme, elle n'est pas contente.
Ouais, c'est le courage de nos opinions.
Elle n'a pas le buffet pour être toute seule.
Il y a beaucoup de monde qui le pense, mais qui n'ont pas le courage de le dire.
Moi, je suis écœuré de voir tout ça.
Écœuré de voir quoi, tout ça?
De voir tout ce bordel.
Vous êtes écœuré d'avoir vu toutes les personnes demander des comptes par rapport à Moulinex, par rapport au groupe Casino?
Mais non, mais Moulinex, ça n'a rien à voir avec Casino. C'est négatif. Vous n'avez pas... Vous êtes conduit en... idéaliste, téléguidé, etc. Ces gens qui provoquent, c'est pas bon.
Ouais.
Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui soient là et foutent la merde dans les assemblées parce que ça arrive à rien. Il y a des gens, par exemple, des gens qui racontaient l'autre, là, je ne sais pas comment elle s'appelait, la première là, qui a parlé.
L'ex-salarié de Moulinex.
Oui, mais enfin bon, il ne faut pas prendre en otage des actionnaires de Casino qui n'ont rien à voir avec Moulinex. Et nous, on n'a rien à voir avec Moulinex, on n'a pas le droit de les prendre en otage. Elle n'est pas dans ce droit pour nous, actionnaires de Casino. Excusez-moi, elle n'a pas à nous emmerder, j'ai exprimé la situation, c'est exactement le terme, avec ces histoires de Moulinex. Parce que une assemblée générale, ça dure 2 heures, parce qu'après, il y a le cocktail, il y a le chat, après, ça se termine. On a autre chose à écouter et à des questions à poser. On a des centres d'intérêt qui ne sont pas sur Moulinex.
Et moi, j'ai remarqué que quand, par exemple, les salariés de Moulinex prenaient la parole par rapport aux salariés licenciés, il y a eu tout le monde qui a hurlé.
Mais de toute façon, vous savez bien que moi, écoutez, j'ai quatre enfants dans deux familles. Il y en a une famille où ils travaillent comme des malades, ils ont envie d'arriver et tout. Et l'autre, à mon avis, qui a peut-être plus de moyens que les autres, il n'affiche pas une arme, c'est de sa faute. S'il a des problèmes, c'est de sa faute.
Donc peut-être que les
licenciements, c'est très souvent quand même de leur faute.
Les salariés.
Mais oui, je ne veux pas dire toujours de leur faute, mais souvent, parce qu'ils ne prenaient pas ce qu'il fallait. Voilà, on ne peut pas foutre la merde, il n'y a pas d'autre mot. dans une assemblée générale sous ce prétexte-là.
Ah ben oui, et monsieur, vous me touchez pas là en revanche. Vous nous mettez à la porte donc.
Vous ne mettez pas à la porte. Bon, on rentre.
Alors on rentre.
Je vous invite à sortir dehors. C'est une invitation.
C'est une invitation à sortir.
C'est une invitation, je pense que vous ne refusez pas l'invitation à ce que je vous invite à sortir à l'extérieur.
On va éviter que la force soit employée.
Non, maintenant, voilà.
On est mis dehors.
Vous restez à l'extérieur,
c'est tout. Voilà. Et on part.
Bon, on va fumer une cigarette, ça va le faire plaisir.
Il est où le cocktail ?
Eh ben, on sait pas.
Ils ont déjà tout bouffé pour un quart d'heure.
On sait pas.
C'est vous les bons.
Pardon ?
Vous êtes bon, monsieur.
On avait la truc qui vous cartonne.
Et moi, je suis hôtesse. Voilà. J'ai suivi la conférence et j'avais un peu envie de cartonner la tête de ceux qui osaient vous huer et de vous dire de vous taire.
Vous êtes des précaires aussi.
Ouais, ils me regardaient, ils me regardaient comme ça, tu vois. Ils se sont dit, mais elle, on va la taper. Ah ouais, non.
Pourquoi, qu'est-ce que t'as fait ? C'est toi qui passais le micro,
c'est ouais. C'est moi qui passais le micro, oui.
De toute façon, il faut toujours enlever un petit canard.
C'était... Ouais, voilà.
Et à la fin, tu n'osais plus le ramener vers nous, le micro, quand même.
Bah, bien sûr, parce qu'il faisait des petits signes. Franchement, non, tu n'es pas le micro.
Celui qui était à la droite de Naouri,
exactement.
N'arrêtait pas de vous regarder.
Voilà, il me regardait pour dire, je reprends le micro, quoi. Ouais, bah, ils m'ont traité, les gens. Bah oui.
Ouais, mais c'est un compliment venant de ta part.
Oui, bien sûr, c'est un compliment venant d'eux, c'est clair. Ils ne sont pas si civilisés, de toute façon, je suis désolée. Déjà, quand quelqu'un parle, on ne prend pas la parole, on ne crie pas, je suis désolée, c'est incivilisé.
On aurait dit des animaux.
Voilà, c'est des animaux. Non, mais pour moi, c'est des animaux, c'est pas des êtres humains, je suis désolée.
Même pour aller manger ensuite, quoi.
C'est vrai que nous, on ne les huait pas quand ils posaient des questions. Sur la bouteille. Bouteille d'huile d'olive,
La question sur la Thaïlande. Ce qui l'intéressait, c'est est-ce que ça a marché là-bas ? Est-ce que ça n'a pas fait baisser mon action ? C'est ça qui l'intéressait. Le social de ce qui se passe là-bas, il n'en avait rien à foutre, le mec. Que les mecs s'entretuent, on n'avait rien à foutre.
Ça s'appelle une conscience financière.
Exactement.
Voilà, pour résumer.
Arrêtez de parler, nous on veut parler d'argent. Arrêtez de parler de vos problèmes, nous on veut parler d'argent. En tout cas, madame, vous m'avez émue.
Ah ouais. Mais ouais. Et encore, tu sais, le fait, j'avais un fil conducteur et j'ai perdu un peu le fil de mon truc.
Ouais, bah oui, parce que je me disais, il faut qu'elle garde justement ce qu'elle a à dire, même si les gens sont en train de duer.
Je m'en fous, alors ça, je m'en fous.
Ouais, mais c'est un peu dur à rester dans notre parole quand on est.
Mais Naouri, c'est débiné.
Donc là, on sort de la Bourse, on sort du Palais Brongniart. Je trouve que c'est un bon endroit pour faire ça en plus. Quoi.
Quand on entend les actionnaires qui protestent bruyamment parce qu'on pose des questions sur la politique sociale de Naouri, c'est tout un symbole, quoi.
Et là, on retourne au Bistrot des Colonnes où le patron est super sympa puisqu'il nous a réservé une salle.
Et voilà. Alors là, surprise. Non seulement les hôtesses d'accueil et les jeunes femmes qui passent les micros sont d'accord avec les intrus, mais les gars du service de sécurité également. C'est quand même des signes encourageants pour les uns et dont les autres devraient peut-être se soucier. Donc après ça, eh bien nos héros se retrouvent au bistrot du coin, au bistrot des Colonnes, pour jouir d'un repos bien mérité et se restaurer. Et là, par hasard, par le plus grand des hasards, qui rencontre-t-il ? Le bon professeur Lordon.
Moi, j'aurais bien voulu...
Camarade, on attaque avec le professeur Lordon sur Jean-Charles Naouri, ma vie, mon œuvre, mon cul.
Oui. Je commence par mon cul, je suppose.
Là, on arrive à l'Assemblée Générale. Il y a un bonhomme en costard-cravate qui porte des lunettes.
Oui.
Assez quelconque, en vérité, qui lit tout ce qui a marqué, ce qu'on arrive très bien à lire nous-mêmes sur le PowerPoint, et qui fuit avant qu'on ait réussi à l'interpeller sur Moulinex, sur Casino, sur... Qui c'est Jean-Charles Naouri, avant d'être PDG de Casino,
C'est un bonhomme qui résume presque à lui tout seul la trajectoire des élites françaises à partir du début des années 80, et c'est-à-dire la trajectoire du capitalisme français lui-même. Au début, c'est un crâne d'œuf à la française comme ce que peut produire de mieux le système d'enseignement supérieur. C'est un normalien, il fait des maths. il rentre à l'école normale supérieure, enfin, en explosant tous les records historiques. Et il sort de l'ENA parmi les premiers, il est inspecteur des finances, et comme tous les énarques inspecteurs des finances, il va faire du cabinet ministériel. Et à l'époque, il rentre chez Bérégovoy. Les socialos sont en train de négocier leur grand virage. Ils sont en train de devenir modernes parce que archaïque, vraiment, ça le faisait pas, c'était pas ça, etc. Ils en avaient marre. Et la grande affaire de Bérégovoy, en fait, il y en a deux. Hein. La première, c'est le grand tournant de la politique économique. Et la deuxième, c'est la transformation radicale des marchés financiers. Parce qu'à l'époque, il faut bien voir que les marchés financiers, c'est que dalle, quoi, en France. Hein. Je veux dire, il y a une bourse, elle était encore au Palais Brongniart, hein, à l'époque. Mais ça vivote, il y a à peine d'activité. Les mouvements de capitaux sont entravés par des contraintes réglementaires. Donc, enfin, c'est un autre monde que celui qu'on a maintenant. Et les socialistes décident que... Pour être moderne, il faut se mettre à la finance. Et je veux dire, la vraie finance. Pas la finance des banques, etc. Parce que ça, les banques, c'est pas bien non plus. C'est, tu comprends, c'est des espèces de grosses bureaucraties bancaires.
Surtout quand elles sont nationalisées.
Alors, elles sont nationalisées, c'est encore pire. Elles s'entendent entre elles parce qu'elles sont pas si nombreuses. Donc, elles s'arrangent pour facturer le crédit trop cher, etc., etc. Alors là, les socialos ont saisi l'occasion pour dire, regardez, le coût de financement de l'économie est extrêmement élevé, c'est la faute à pas assez de concurrence dans le système financier français. Conclusion, il faut tout déréglementer pour mettre les banques en concurrence avec le marché financier, qui doit représenter une possibilité alternative pour les entreprises d'aller lever des fonds. D'ailleurs, jusqu'à présent, elles devaient aller au guichet de la banque, mais les banques s'entendaient entre elles comme la ronce en foire. On leur propose une nouvelle structure qui s'appelle les marchés financiers, où les entreprises pourront se pointer directement pour lever des capitaux et faire la nique aux banques, qui seront bien obligées de ramener leur taux d'intérêt un peu plus bas. Si tu veux, c'est la grande justification de l'époque pour la transformation des marchés financiers. Il faut faire baisser le coût du financement de l'économie française, et en bonne logique libérale, lorsqu'on veut faire baisser les coûts, il faut déréglementer et flexibiliser.
Et donc que fait Naouri alors là-dedans ?
Alors Naouri, lui, il est aux manettes, hein, parce que c'était une transformation quand même qui était explosive. Je veux dire, c'était une révolution des structures du capitalisme français, et c'est une toute petite équipe autour de Pierre Bérégovoy qui fait ça toute seule dans son coin et qui va livrer le paquet cadeau ficelé, Mitterrand va valiser, et hop, ça va passer comme une lettre à la poste. Et au cabinet de Bérégovoy, il y a deux gars qui s'occupent de ça, qui sont Claude Rubinovitch et Jean-Charles Naouri.
Il y a quoi dans le paquet cadeau alors ?
Voilà, il y a plein de choses. On a autorisé les banques à devenir intermédiaires sur les marchés boursiers, ce qu'elles n'avaient pas le droit de faire jusqu'à présent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on a ouvert les marchés de capitaux français à l'international. C'est-à-dire on a autorisé, bien plus qu'on ne le faisait par le passé, des capitaux étrangers à venir s'investir sur la place financière française. Et c'était ça aussi l'un des buts de la manœuvre, c'était de dire, ah regardez, il y a une concurrence des places financières, une concurrence internationale, New York évidemment est la capitale financière du monde, Londres va faire son Big Bang, les Allemands ne tarderont pas, il faut qu'on suive, parce que sinon on va être décroché, donc il faut que la place financière française, hein, c'est ça, bon. Et la dernière chose, c'est que on a créé les marchés de produits dérivés. C'est le truc qui nous fout la merde à grande échelle, hein, depuis 3 ans, mais en fait depuis beaucoup plus longtemps. Donc il y a eu le Matif, le Monef, qui est le marché des options, etc. Donc tu vois, c'était un paquet cadeau rondelet, hein, quoi, je veux dire, qui était sous le sapin, et là il y avait de quoi satisfaire les rêves les plus fous de toute l'industrie financière française. Donc c'est une énorme architecture de marché là qui va sortir tout armée.
Moi, il y a un truc que je trouve marrant, c'est finalement, là, ce matin, on était au Palais Brongniart, à la Bourse, où se déroulait l'Assemblée Générale de Casino.
Oui.
Et ce que tu racontes, là, c'est que finalement, dans les années 80, Jean-Charles Naouri, qui à l'époque oui. était ministre, mais a fait le bonheur
oui.
de ce Palais Brongniart, où on se trouvait dans les sous-sols ce matin.
Alors ça aussi, c'est cette espèce de proximité quasi osmotique entre la haute finance et l'État. Alors en général, on pense que c'est deux opposés complets. C'est-à-dire la haute finance, c'est le marché, etc. Et si c'est le marché, c'est l'opposé de l'État, qui est caca. Le marché, lui, il est flexible, c'est bien, etc. Donc bon, on pense que c'est deux univers séparés. C'est pas vrai. C'est deux univers qui sont en fait extrêmement proches. C'est-à-dire, historiquement, la haute finance a toujours prospéré à l'ombre de l'État. Tout simplement parce que les tout premiers banquiers étaient les financeurs des dépenses du souverain. Hein, voilà. Bon, cette espèce de proximité organique va jusqu'au point ultime où c'est l'État qui est le créateur des marchés financiers. Ça, c'est le point vraiment très important. La finance déréglementée, ça tombe pas du ciel. c'est toujours le produit de décisions de politique publique. Cette proximité, elle se traduit par la circulation des élites d'une sphère à l'autre. C'est-à-dire les élites financières se reconvertissent en élites politiques ou administratives qui repartent dans la finance et tournent manège, tu vois. Alors, c'est pour ça que je te disais que Nahouri est vraiment un cas type de ça. Parce que il devient haut fonctionnaire, il a des responsabilités politiques, même si c'est officieuse, puisqu'il est membre du cabinet à très très haut niveau. Enfin, il est l'auteur d'une réforme financière de première importance. Et dès qu'il quitte le cabinet de Bérégovoy, qu'est-ce qu'il fait? Il entre chez Rothschild, un des summums de, si tu veux, de la haute finance, quoi.
Et donc, la première vie de Jean-Charles Nahouri, c'est au sein de l'État, voilà, qui libère les marchés financiers.
Exactement.
Ça, c'est sa première vie. Sa deuxième vie, c'est je passe directement dans la finance.
Alors, je dirais même autrement, c'est la première vie, je crée les structures de la finance, et la deuxième vie, je passe dans le privé pour profiter des structures de la finance.
Mmh. Et donc, Messi... Qu'est-ce qui pourrait me tenir le micro
Moi.
Non, je vais... voilà, comme ça, je peux vous faire mon... Dans un deuxième temps, il passe chez les financiers pour ramasser la mise.
Alors moi, je me souviens d'un papier de Pierre Rimbert dans Le Monde diplomatique il n'y a pas si longtemps, où il avait ressorti une phrase qu'aurait dite Nahouri, qui était « Nous avons eu le pouvoir, maintenant il nous faut l'argent ».
Avant il se cachait, maintenant il se cache plus, c'est une évolution.
Oui.
En fait, c'est décomplexé. On a la politique décomplexée, on a la finance décomplexée, il n'y a plus aucun complexe, en fait.
Qu'est-ce qui vient nous faire chier, ces comptes pauvres ? Recontinue où t'étais.
Peu après être rentré chez Rothschild, il a créé son propre fonds d'investissement qui s'appelle Euris. Et c'est Euris, hein, qui est l'actionnaire de Rallye puis de Casino.
Euris, quand il le fonde, finalement, c'est un innovateur. C'est ce qu'on appelle maintenant un private equity.
Alors, c'est... oui.
On n'investit plus seulement dans une entreprise, mais dans plusieurs entreprises. Ça peut être mouvant.
C'est en effet le début de la private equity à la française.
Que fait Nahouri ? Chez Moulinex, que fait-il chez Casino ?
Quand Nahouri est arrivé chez nous, c'était pour...
Chez nous, c'est chez Moulinex.
Donc Nahouri est arrivé là-dedans, avec 150 millions d'euros, de francs. Il fait rentrer Coulon. Il avait acheté ses actions, elles valaient 90 francs à l'époque. Et Coulon, au bout d'un ou deux ans, l'action est à 85. Donc il dégage. Il se fait éjecter avec l'aide de Minc, meilleur économiste de France. Qui met Blaillot, parce que c'est son parrain. Puis le marché se casse la gueule. Mais entre-temps, il a réussi à faire croire, par les plans sociaux annoncés, les restructurations, changement de trucs, que la société allait bien. Et 98, comme par hasard, Moulinex, c'est la seule année où elle annonce des résultats positifs. Et donc l'action de Moulinex, et Nahouri se barre, 55 millions d'euros de plus-value. Basta, et la merde continue.
Nahouri, qu'est-ce qu'il va faire chez les Moulinex alors ? Il va essayer de stabiliser son capital ?
Nahouri est à la tête d'un tas d'or et il faut qu'il le place. Je veux dire, il va pas le mettre chez sa mémé dans la lessiveuse. Donc, un fonds d'investissement, par définition, est en permanence en train de scruter le paysage industriel français ou étranger, mais là, de préférence français, pour voir là où il y a des bonnes opportunités d'investissement. Et il estime qu'avec Moulinex, il y en a une bonne. Alors, il y va. De la même manière qu'il avait estimé qu'avec Rallye, il y avait un truc à faire pour monter en puissance dans le secteur de la grande distribution. Rallye, c'était la première étape.
Il y a cette citation que je retrouvais de Jean-Charles Nahouri dans un article qui faisait paraître dans une revue financière, où il déclarait, donc c'était en 1986-87, « Le marché financier français a connu depuis deux ans une profonde mutation, sans doute la plus profonde depuis de longues années. » Donc c'est la mutation qu'il avait entreprise dont tu nous avais parlé. Quand on compare les caractéristiques de ce marché entre la mi-84 et la mi-86, on est frappé par la transformation totale du paysage financier et plus encore par la transformation des mentalités. Les débats, souvent passionnés, qui divisaient la place il y a deux ans, sont aujourd'hui périmés. Tout le monde s'accorde sur les notions de concurrence, d'ouverture des marchés, de banalisation des produits. En fait, là, il décrit tout ce qu'il a réussi, tout ce qu'il a fait en matière de libération des marchés financiers. C'est en gros tout ce qu'il nous a envoyé dans le mur il y a un an et demi, qui a été déclenché au milieu des années 80. Et à la limite, s'il fallait poser une question à Nahouri, je veux dire, aujourd'hui, on serait en droit de l'attendre, non pas seulement les salariés de Moulinex, non pas seulement les salariés de Casino, mais je dirais tous les citoyens français, sur ce qu'il a mis en œuvre au milieu des années 80, et lui demander, Pierre Bérégovoy, c'est plus possible, mais lui demander au moins à lui une réponse sur, enfin, est-ce qu'il considère toujours que c'est un bilan globalement positif, quoi.
Je pense que tu as encore moins de chances d'obtenir une réponse sur cette question que sur celles qui ont été posées en Assemblée Générale.
Mais est-ce que c'est pertinent ou pas ?
C'est LA question.
On
La question que pose François déborde largement le cadre des aimables activités de Monsieur Naouri à la tête de casino, etc. C'est effectivement une question d'importance, mais c'est une question politique nationale, c'est une question macroéconomique et macrosociale. Je veux dire, cette réforme qui est, tu vois, qui a toutes les apparences du bidule de corne-cul technique, machin, etc., le Matif, les options, le je sais pas quoi, etc., nous a fait changer de monde. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans sa citation avec un air visiblement de grand contentement de soi. Hein. Bon, effectivement, c'est à ça qu'il faudrait le ramener. C'est-à-dire, hé, vieux. Maintenant, on a 2 décennies d'expérimentation en vraie grandeur. Et comment tu trouves la gueule du monde dans laquelle nous sommes?
Bon, je pense que le problème, c'est qu'il le trouve pas mal, le monde.
Alors, ce monde-là est très, très bien pour lui. Hein. Ouais, ça, c'est vrai.
Donc, qui est pour faire traduire Jean-Charles Naouri devant le tribunal pénal international fakirien et de la Belgique?
À l'unanimité, condamné.
Quand les cigares, ils changeront de bouche. Quand les stars, elles changeront de main. Quand la bonne soupe, elle changera de louche. Qui sera dans le bottin? Quand les gibus, ils changeront de tête. Quand les bagouses, elles changeront de doigts. Quand l'homard, il changera fourchette. Les employés, on sera les rois. Il faudra plus nous négliger. C'est nous qu'on sera les PDG. Remarquez, même en Rockefeller, je resterai comme un fils d'ouvrier. Un employé, un bas salaire, c'est une chose à pas oublier. Oui, mais... Mais quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, les sofas ils changeront de derrière, qui c'est qui changera de bignou, quand les Rolls changeront de carte grise, quand Maxime changera de client, quand les smokings changeront de valise, alors la vie, les gentlemen, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Les cigares, ils changeront de bouche. Quand les stars, elles changeront de main. Quand la bonne soupe, elle changera de louche. Qui sera dans le bottin? Quand les gibus, ils changeront de tiède. Quand les bagouses, elles changeront de doigts. Quand l'homard, ils changeront de fourchette. Les employés, on sera les rois. Il faudra plus nous négliger. C'est nous qu'on sera les PDG. La 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 la
la. Qui avait réagi vivement par rapport aux actionnaires. Je me suis dit peut-être que vous pensiez à votre femme qui a été salariée de Moulinex.
Oui, ben de Manoury, j'en attendais rien du tout. Par contre, où j'ai été vraiment choqué, c'est quand des personnes qui ont quand même un certain âge, la plupart d'entre eux avaient certainement plus de 65 ans, la façon dont ils ont réagi quand ils ont entendu les mots. Suicide. Détresse humaine, voilà, c'est la façon dont ils ont réagi, ces personnes-là, d'un certain âge. Moi, ça m'a vraiment... je comprends pas. Simplement, on est axé sur la valeur de son action, puis le reste, on oublie tout, on oublie la détresse humaine, on oublie tout ce qui tourne autour, la perte de l'emploi, enfin tout, quoi. Le social, quoi, il n'y a pas... Des gens qu'on a vus à l'association, et puis on apprend un jour, ben voilà, un tel s'est suicidé, un tel est dans une détresse immense, il couche dans sa voiture, quand il a une voiture, ou alors... Et c'est des personnes qui n'ont rien demandé, ils ont bossé 30 ans, 35 ans, et du jour au lendemain, ils ont été virés dehors, parce qu'il y a des mecs qui ont voulu faire un profit, et puis derrière, ben, y a des actionnaires qui soutiennent ça. Quand tu as prononcé, tu t'es fait huer dès qu'ils ont entendu le mot suicide, le mot détresse, le mot malheur, l'amiante, tout ça. On croirait que ces mots-là, ça c'est insoutenable à leurs yeux, à leurs oreilles.
Voilà, ça c'était donc l'année dernière, en juin 2010. Mais depuis, comme vous le savez, il y a eu une suite. Pas plus tard qu'hier, l'Assemblée Générale des Actionnaires, deuxième partie. On vous donnera tous les détails bientôt dans Là-bas si j'y suis.
Monsieur Naouri, vous pouvez me donner le micro?
Voilà, les questions ont été posées. On a répondu.
La question n'a pas été posée. Monsieur Naouri, laissez-moi la parole, on n'est pas venu. Messieurs, mesdames, les petits actionnaires.
Assemblée générale des actionnaires du groupe Casino.
On est des gens très courtois, je vous assure.
14 avril 2011.
Mais oui, on est des gens très polis. On vous demande simplement de pouvoir poser nos questions tranquillement, comme ont le droit de le faire tous les petits actionnaires.
Monsieur, vous avez le droit de faire un rapport.
S'il vous plaît. Et s'il y a obstruction, on va passer tout de suite au vote des résolutions.
on va arrêter le débat ici, poser une résolution.
Est-ce que vous soyez d'accord pour reprendre le débat ensuite? Vous l'a proposé plusieurs fois.
Que vous les petits actionnaires, que vous les géants magasins, ici résonne notre colère, aux financiers mordons la main, c'est la lutte acharnée, groupons-nous et demain, l'Assemblée.
C'est ça votre version du débat, monsieur Mahoudi? Vous envoyez les gros bras pour débattre sur la finance, sur Moulinex? Tranquillement.
Excusez-moi, madame.
Se dégage.
Monsieur.
C'était un reportage de François Ruffin et Pascal Pascariello. Et prochainement la suite, l'Assemblée des actionnaires Casino 2011. Merci à Christophe, Roger, Magui, Lionel, Jean-Louis, François et Vincent, ainsi qu'à Dominique, Maître Fromentin et à Frédéric Lordon. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission, là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et David Federman, réalisation Coyen Guyenne, assistée d'Agnès Lebotte et Marina Touyez, attend vos messages au 01 56 40 37 37. Vous écoutez France Inter, il est 16h. Les informations avec Corinne Audouin.
Déjà des réactions après la décision de la Cour de cassation de demander l'application immédiate de la réforme de la garde à vue, ce qui implique notamment la présence d'avocats lors de tous les interrogatoires. Les syndicats Alliance Police Nationale, Synergie Officier et le syndicat indépendant des commissaires se disent affligés. Ni les policiers, ni les magistrats, ni les avocats ne sont prêts pour la mise en place de ce dispositif, écrivent-ils dans un communiqué commun. La loi a été adoptée mardi soir. Pour les policiers, la précipitation dans l'application de cette mesure entraînera une mise en œuvre chaotique. Au contraire, selon Jean-Yves Le Borgne, avocat et vice-bâtonnier de Paris, les avocats sont prêts et mobilisés pour assurer cette entrée en vigueur immédiate. Après la très vive polémique autour du débat sur la laïcité, l'heure est à l'apaisement. Le gouvernement annonce la création d'un groupe de travail interministériel pour clarifier les conditions d'application de la neutralité religieuse dans les services publics. Le Conseil français du culte musulman se félicite de ce qu'il appelle une décrispation générale. Parmi les mesures annoncées, pas de loi, mais un code de la laïcité et de la liberté religieuse qui sera disponible fin mai. Le Conseil général du Haut-Rhin s'interroge sur l'avenir de la centrale nucléaire de Fessenheim. Les élus demandent que l'autorisation d'exploiter le site 10 années de plus ne soit pas donnée avant les conclusions de l'audit lancé sur les centrales françaises. La ville de Strasbourg avait déjà voté une motion demandant l'arrêt de la centrale, construite en 1977, la même année que celle de Fukushima au Japon. C'est la plus vieille centrale française en activité. L'un des symboles du régime de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire vient d'être arrêté. Charles Blégoudé, le chef des jeunes patriotes, a été placé en résidence surveillée. Ministre de la jeunesse du président ivoirien sortant, surnommé le général de la rue pour sa capacité à mobiliser les jeunes, Charles Blégoudé est accusé d'avoir encouragé des attaques contre des civils, des étrangers et des casques bleus de l'ONU. Le mouvement de contestation ne faiblit pas en Syrie. Malgré la formation d'un nouveau gouvernement hier, des dizaines de milliers de manifestants défilent dans tout le pays. En Jordanie, plus d'un millier de personnes se sont rassemblées à Amman pour demander une réforme du régime à l'appel du Front de l'Action islamique et des partis d'opposition. Et sans doute pour prendre les devants de la contestation, le président algérien Abdelaziz Bouteflika s'exprimera ce soir à la télévision. Il doit annoncer d'importantes décisions. L'Algérie est en proie à de nombreux mouvements sociaux. Les émeutes en janvier dernier avaient fait 5 morts. La Croatie s'insurge contre le jugement du tribunal pénal international de La Haye. Le TPI a condamné à 24 et 18 ans de prison deux anciens généraux de l'armée croate pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis en 95 dans la région de la Krajina. Le verdict est accablant pour le président croate de l'époque, Franjo Tudjman. Pour la Cour, le chef de l'État a dirigé une entreprise criminelle collective afin de repeupler la Krajina avec des Croates après en avoir expulsé les Serbes. Franjo Tudjman est mort en 99 sans avoir été jugé et ce verdict est inacceptable pour la première ministre croate. Et en Italie, c'est l'indignation après le meurtre du militant pacifiste Vittorio Arrigoni, tué à Gaza par un groupe salafiste. Des rassemblements sont organisés cet après-midi dans plusieurs villes d'Italie à l'appel de nombreuses associations, partis politiques et ONG. Sans problème, Rafael Nadal s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi de tennis de Monte-Carlo. L'Espagnol a remporté les 6 dernières éditions de ce tournoi sur terre battue. Il rejoint dans le carré final David Ferrer et Jürgen Melzer.
Que vous reproche-t-on ?
Rien. Rien.
Ce soir dans Studio Théâtre,
Laure Adler.
Grabuge à l'Odéon, le feuilleton avec les différents intéressés, des spécialistes de théâtre et aussi Olivier Pie.
C'est ce qui est particulièrement douloureux pour les équipes de l'Odéon qui se sont battues. C'est pas moi qui suis sanctionné, seulement moi. C'est aussi eux.
Studio Théâtre. Ce soir sur France Inter, à partir de 23h. La différence.
16h04 sur France Inter, je vous laisse en compagnie de Frédéric Lodéon, bonjour.
Bonjour Corinne. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Une réédition fabuleuse, Byron Janis, ex-enfant prodige américain, venu porter son talent en Russie, où il a été très bien accueilli d'ailleurs, c'était en 1960, et puis en 62 on a enregistré pas mal de moments exceptionnels. Donc chez Newton Classics, on trouve les deux concertos de Franz Liszt à l'honneur cette année, bien sûr c'est son anniversaire, 200 ans déjà pour sa naissance. Et je vous propose d'entendre un extrait du premier concerto. Concerto fort connu, mais enfin joué là de manière exceptionnelle. Et je voudrais juste avant citer un mot de Franz Liszt qui disait, avant d'arrêter sa carrière d'ailleurs pour se livrer à la composition et puis à la direction d'orchestre, « Mon piano, c'est le dépositaire intime de tout ce qui s'est agité dans mon cerveau aux jours les plus brûlants de ma jeunesse. C'est là qu'ont été tous mes désirs, tous mes rêves, toutes mes joies et toutes mes douleurs. Ces cordes ont frémi sous toutes mes passions. Ces touches dociles ont obéi à tous mes caprices. Allegro martiale, martial, presque militaire, et animato du premier concerto pour piano. »